I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 698 du podcast Toche dans l'actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, la semaine 15. Vous l'entendez peut-être, ma voix n'est pas des plus assurées aujourd'hui, mais je vais tenter de tenir la barre et surtout je vais être bien accompagné puisque je serai avec Victor Roulier. Salut Victor.
Et bonjour Raoul, bonjour à tous. Écoute, c'est de l'appropriation culturelle, d'accord ? La voix cassée, c'est moi. D'accord.
C'est vrai.
Ça fait partie de ma marque de fabrique. Merci de respecter un peu d'identité de chacun.
Oui, mais grâce à ça, aujourd'hui, t'es premier des pronos. On va en reparler tout à l'heure. Donc peut-être que si j'ai la voix cassée pour faire le podcast, je vais pouvoir te rattraper un petit peu au point. On va voir le programme du jour. Vous connaissez la chanson aujourd'hui. C'est le débat. Ça va être sur la NFC. Non, l'AFC Sud. Justement, la NFC Sud. C'était la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est l'AFC Sud. À l'inverse de la NFC Sud, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent se qualifier encore en playoff. On va faire un point sur tout ça. Notre affiche de la semaine, c'est évidemment le match entre les Ravens et les 49ers dans la nuit de lundi à mardi, mardi à mercredi, je ne sais plus, on verra ça. Mais c'est le remake du Super Bowl et le match entre les deux meilleures équipes actuellement en NFL. Puis on fera tous les points sur les pronos et les meilleures cotes de la semaine. Sacré programme, Victor, est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Alors, c'est parti.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On titrait la semaine dernière « Qui veut gagner la NFC Sud ?» Là, c'est presque « Qui est chaud pour aller au bout en AFC Sud ?» puisque aujourd'hui, il y a trois équipes qui sont très bien lancées, non seulement pour l'emporter, mais de toute façon pour se qualifier en play-off. Petit constat, alors déjà premier point, les Titans sont officiellement éliminés de la course au playoff, donc on va pas en parler. On va parler de Houston, d'Indianapolis et de Jacksonville. Victor, comme la semaine dernière, on peut commencer peut-être par faire un petit point d'ensemble sur la division. Contrairement à ce qu'on disait de la NFC Sud, là c'est trois équipes qu'on n'a pas trop envie d'affronter aujourd'hui en NFL.
Bah en tout cas, c'est trois équipes qui ont un bilan positif déjà, donc ce qui est totalement différent de la NFC Sud de la semaine dernière. Et en effet, on va dire que c'est pas les trois équipes les plus redoutables de la conférence, mais pour autant, c'est des équipes où quand tu les as à ton calendrier, bah t'es pas forcément content et tu sais que tu vas devoir batailler. Donc c'est sûr que c'est des matchs très compliqués à jouer.
Alors aujourd'hui, entre les trois équipes, Jacksonville est en tête de la division, ils sont premiers de la division, quatrième seed en AFC. Les Colts sont 7e en AFC et les Texans 8e. Donc on l'a dit, il y a vraiment des chances d'aller en playoff, même pour les trois. Les trois pourraient passer, ça va se jouer un peu avec d'autres équipes, on va en parler après. Mais d'abord, on va faire un petit point sur les forces qui peuvent permettre à ces trois escouades-là d'aller au bout. Et on peut faire comme l'autre fois, si tu veux. Est-ce qu'on fait dans l'ordre alphabétique, Victor ?
On peut faire dans l'ordre alphabétique, ça me va très très bien.
Alors, si je me souviens à peu près de mon alphabet, on commence par la lettre H. Et donc les Houston Texans, quelles sont les forces actuellement des Houston Texans ? On peut forcément parler d'abord un petit peu de la situation au poste de quarterback.
Bien sûr, j'ai envie de dire quelles sont les forces. la force de la jeunesse. Un quarterback, CJ Stroud, qui est quand même fabuleux depuis son arrivée dans la ligue. On a au niveau des receveurs, Tank Dell, alors qui malheureusement maintenant est blessé. On va y en venir, c'est un peu le problème de cette équipe. Mais même Nico Collins, qui est un sophomore qui est très bon. Derek Stingley en défense qui s'est réveillé. Will Anderson, le rookie qui est devenu un des meilleurs pass rushers de la conférence. J'ai l'impression que cette équipe, en fait, elle a des jeunes de talent partout. Et c'est presque des trois, celle qui a le moins à perdre. Parce que de toute façon, personne n'attendait rien à court terme de cette équipe. Ils ont déjà fait tellement plus que ce qui était attendu, en fait.
C'est clair.
Que j'ai l'impression que c'est du bonus. Après, le seul problème des Texans, bah, c'est clairement les blessures, quoi. Quand tu vois que le dernier match, alors ils ont gagné, hein, finalement.
En plus, ouais.
Mais bon, sans Stroud, sans Will Anderson, etc., etc., on va y revenir. Mais bon, le match, ne serait-ce que le match de cette semaine, il va falloir être à 100%.
Côté Indianapolis, alors on ne parle pas des coaching staff parce que je crois quand même que les trois coaching staff sont tout à fait bons.
Ouais, il y en a deux que je mettrais au-dessus. Quand même.
Oui, Jacksonville et Houston.
Non.
Ah.
Houston, Indianapolis.
Ah ok, d'accord. Tu ne mets pas ton ami Big Person.
Sur cette saison, non. Sur cette saison, je trouve que il n'arrive pas forcément à exploiter au maximum le talent de ses équipes, alors que les deux autres y arrivent, pour moi.
Oui, peut-être qu'effectivement, Jacksonville a des meilleures armes, et du coup, de se retrouver au même niveau que les deux autres, c'est peut-être qu'il y a un truc qui a coincé. On va y revenir, on continue notre tour d'horizon. Donc, après Houston, on fait Indianapolis, les Colts. Quelles sont, d'ailleurs, selon toi, les forces de cette équipe pour aller au bout?
Bah écoute, Steichen, déjà, qui arrive à assez incroyablement à tirer le meilleur de cette équipe. Et je dirais que cette équipe, elle est construite à l'ancienne. Steichen n'a pas dû être perdu par rapport aux Eagles. C'est-à-dire les lignes d'abord. Donc, une ligne offensive dominante, une ligne défensive dominante. Et après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et globalement, Gardner Minshew, il fait une bonne saison. Michael Pittman, ça ne sera jamais un grand receveur numéro 1, mais il fait sa saison. Au niveau des coureurs, même quand Taylor n'est pas là, il trouve des solutions. Même en défense, finalement, Kenny Moore, cette année, c'est tout bon. Au poste de cornerback aussi. On a l'impression que c'est vraiment une équipe qui est bien coachée dans le global. Tout le monde joue à son niveau, au-dessus de son niveau attendu. Et du coup, je trouve vraiment que c'est l'équipe qui surperforme le plus, mais pas surperformée. Dans un sens, ils vont être cramés l'année dernière. Là, c'est une petite surperformance, juste
ouais.
Une sorte de petit bonus de bon coaching.
Et presque un avant-goût, parce qu'en fait, si tu y penses, l'an prochain, si Richardson revient en forme et que cette équipe maintient ce niveau-là, tu peux quand même avoir trois équipes, et même les Titans, qui ne sont pas ridicules non plus cette année, tu peux avoir une AFC Sud qui va être très sympa à suivre, parce qu'avec un niveau relevé dans les quatre équipes, on finit avec les Jaguars de Jacksonville. Le point fort pour toi, Victor, de cette équipe aujourd'hui, quel est-il?
C'est de moins en moins clair pour moi, tu vois. Parce qu'en début de saison, je t'aurais dit Lawrence, mais je trouve que cette saison, il montre des limites. Je t'aurais dit les receveurs, mais là, avec la blessure de Kirk, ça commence à devenir un peu limité aussi. La défense, c'est une semaine sur deux. Donc, je dirais, quel est le gros point fort? C'est les semaines où tout va bien et le gros point faible, les semaines où tout va mal. T'as l'impression que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde et que tu lances une pièce pour savoir lequel tu vas affronter chaque semaine.
Ce qui peut être à la fois inquiétant et rassurant pour les adversaires. Tu sais jamais trop sur quel pied tu vas danser. Faisons un petit point sur les calendriers qui restent à ces trois équipes-là. En l'occurrence, peut-être le plus facile, tu vois, on vient de dire à l'instant que les Jaguars, on sait jamais trop à quoi s'attendre avec eux. Ils ont quand même un déplacement chez les Buccaneers, puis ils reçoivent les Panthers et ils jouent chez les Titans. J'ai l'impression que c'est peut-être le plus simple des trois. On va voir une fois qu'on en rappelle le point, mais Déjà, on peut commencer par ça. Certes, chez les Buccaneers, c'est pas gagné. On va en parler tout à l'heure. Mais Panthers et Titans, c'est quand même censé être à leur portée. Ils doivent pouvoir faire au moins 2 voire 3 victoires d'ici la fin de saison.
Normalement, ils doivent en faire 2. S'ils déconnent pas, ils doivent en faire 2. Mais je vois une autre équipe pour laquelle j'aurais dit que le calendrier est peut-être encore plus facile.
Est-ce que tu parlerais d'Indianapolis qui va chez les Falcons, qui reçoit les Raiders et qui finit par les Texans?
Ouais. Parce que pour moi, les Falcons, là, vraiment, en perdant contre les Panthers, ça a été un suicide collectif. Les Raiders, c'est très joli, mais contre une équipe concentrée, contre une vraie équipe de foot, ça ne peut pas gagner un match.
Ils ne mettent pas 63 points.
Ils ne mettent pas 63 points, ouais, contre une vraie équipe. Et après, tu as le dernier match face aux Texans. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à Indianapolis.
C'est à Indianapolis, exactement.
Donc quand même, tu vois, dans ce 50-50, tu peux dire l'équipe à domicile est un peu avantagée, tu vois. Bon, si tant est que ce n'est pas le public d'Indianapolis qui va t'empêcher d'appeler les jeux, parce que ce n'est pas le public bruyant des États-Unis. Mais écoute, moi, je n'irai plus sur le calendrier d'Indianapolis.
Ah, ok. Alors, en l'occurrence, les Texans, eux, leur calendrier, c'est recevoir les Browns, recevoir les Titans et jouer chez les Colts. C'est pas injouable. Et en fait, tu vois, ce match Colts-Texans, on se disait la semaine dernière qu'il y avait une finale un peu NFC Sud. Tu as presque une finale AFC Sud, là aussi, entre les Texans et les Colts à Indianapolis en semaine 18. Honnêtement, le gagnant de ce match-là, ça ne me surprendrait pas que ce soit le tie-breaker pour gratter une place. Alors, peut-être pas pour gagner le titre, mais en tout cas pour gratter la place de wildcard qui pourrait échoir à l'une de ces deux équipes-là. Le seul truc, c'est que moi, j'espère pour eux quand même que CJ Stroud sera revenu. Et à ce moment-là, je pense qu'ils sont quand même un peu mieux armés. Et ça pourrait faire en sorte que les Texans finissent peut-être 7e ou 6e seed. Ça va dépendre de beaucoup d'autres équipes en AFC. Mais c'était eux la deuxième équipe qualifiée en playoff de l'AFC Sud.
J'entends, mais tu vois, CJ Stroud, il était là contre les Jets. Et toutes les blessures ont commencé à quand même leur coûter des plumes. Donc, c'est très difficile. Moi, je leur souhaite, honnêtement, je leur souhaite. Et y a un monde pas si farfelu où les trois équipes.
Les trois peuvent y aller. Les trois peuvent y aller. En fait, ça va. Il faut ça joue un peu.
Bill Buffalo, Cincinnati. Bon.
Et Denver. Si Denver s'effondre pas, mais ne va pas trop dans la dynamique qu'ils ont. Si Denver gagne pas tous ses derniers matchs, il y a une place. Non, il y a une place pour les trois. Hein.
Ouais, donc c'est pour ça. Moi, malgré tout, j'ai fait un peu tourner la roulette. Hein. Et je tombais la plupart du temps sur champion de division des Colts.
Oh.
Et du coup, en wild card, j'avais les Jaguars. Et j'ai fait 2 scénarios différents. Et 2 fois, les Texans finissent 8e au tiebreaker.
Aïe, aïe, aïe.
C'est vrai.
Moi, j'ai fait... en fait, j'avais regardé, mais il y a un match des Bills. Si les Bills, ça va, c'est les Broncos, moi, qui me faisaient peut-être un peu peur. Et en fait, moi, je voyais plutôt Jacksonville gagner la division et Houston passer en, je crois que j'avais les 6e seed. Et en fait, Indianapolis, ça dépend pas que d'eux, quoi. Donc, bon, mais je les voyais pas forcément passer. Ça qui est beau, c'est que c'est peut-être un peu plus incertain encore que la NFC la semaine dernière. Mais donc, toi, tu vois Indianapolis gagner la division. Ça serait assez inattendu, quand même.
Ah, pour le coup, oui. En tout cas, dans ce scénario-là, avec la blessure d'Anthony Richardson qui joue que 3 matchs et tout. Oui, c'est assez inattendu.
Ok, écoutez, vous avez toutes les clés pour suivre avec attention les derniers matchs de ces 3 équipes dans les 3 semaines qui arrivent. Nous, on va passer tout de suite à notre affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, on l'a dit en préambule, c'est évidemment le match qui va opposer les 49ers de San Francisco, qui sont à 11 victoires et 3 défaites, aux Ravens de Baltimore, qui sont également à 11 victoires et 3 défaites. C'est le remake du Super Bowl d'il y a quelques années, si vous vous souvenez bien.
La
coupure de courant, bien sûr. Colin Kaepernick, quelle grande époque. Alors, on parle beaucoup, évidemment, cette fin de saison de ces deux équipes. C'est normal. Est-ce que Victor, voilà, on va commencer par ça. Est-ce que c'est aujourd'hui les deux équipes favorites pour se retrouver au Super Bowl? Ah, un prix de court, monsieur.
Un peu plus les Niners que les Ravens. Dans le sens où plus ça va et plus les Niners, j'ai l'impression qu'ils ont une marge sur les autres. Alors qu'en AFC, je continue de penser que un Buffalo qui reviendrait à balle ou un...
Ah, les Chiefs.
Un Chiefs de Mahomes. Voilà, ça sera jamais... Ou même les Dolphins, tu vois, qui prennent feu de 5 matchs ou 2. Ah, c'est jamais gagné. Donc, je dirais que oui, c'est les deux favoris, mais la marge semble plus forte pour San Francisco.
Ok. Alors, ces deux équipes qui sont évidemment hyper remplies de superstars dans les quatre escouades, question classique, quel est l'affrontement que toi, tu veux voir entre ces deux équipes-là, attaque contre défense ?
Bah écoute, moi ce que j'ai envie de voir, c'est l'attaque des Niners contre la défense des Ravens. Parce que cette défense des Ravens, elle a des schémas de pression qui sont quand même très particuliers. C'est une sorte d'équipe qui joue presque en front five exclusivement. Je trouve que c'est créatif, c'est efficace et c'est punitif. Et en fait, les Niners, bon, ils sont excellents. Si on essaye de creuser un peu, tu vois, les rares trucs qui ont pu leur coûter des plumes dans leurs trois défaites, c'était les pertes de balles. Et je trouve que les Ravens, là-dessus, ils sont très punitifs et ils peuvent provoquer des pertes de balles. Mais bon, d'un autre côté, la machine aujourd'hui, Niners de Purdy, de Samuel, de McCaffrey, de Ayuk, elle semble inarrêtable. Donc vraiment, c'est... Il va falloir, ça va être un duel énorme pour les Ravens parce qu'il va falloir trouver des schémas pour faire douter cette attaque que tout le monde a essayé de faire et à peu près tout le monde a échoué.
Je vous donne quelques stats. Hein. Bah, effectivement, tu parles des turnovers. Aujourd'hui, Baltimore vole 21 ballons sur la saison face à ses adversaires. Et il y a quand même une autre stat qui est assez effrayante. Qu'il y a 50 sacs qui sont réussis. Il y a quand même Justin Madubuike qui est à 11 matchs d'affilée avec un sac. Alors, un demi-sac, c'est, voilà, là, c'est le fait de quand tu fais un sac à deux, tu as un demi-sac. Mais c'est un record à égalité NFL. S'il met un demi-sac là, sur ce match-là, il peut devenir le joueur avec le plus de matchs en réussissant un sac consécutif.
Ce qui est d'autant plus incroyable que ce n'est pas un vrai pass rusher. C'est plus un... C'est un defensive end 3-4, quoi. Donc, c'est presque pas son rôle de faire ça.
Pas. Mais bon, voilà, là, cette attaque des 49ers, elle est quand même menée par Brock Purdy, qui a 3795 yards, qui a quasiment 70% de passes complétées. Il a 69,8, si vous voulez la stat exacte. Puis, il y a 29 touchdowns, il y a 7 interceptions. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait un candidat crédible au MVP ? On arrive en fin de saison, il faut commencer à parler de ces choses-là, Victor.
Oh bah là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le MVP, il sera aux Niners. La question, c'est est-ce qu'on considère comme depuis 10 ans que c'est un trophée de quarterback et tu donnes à Purdy, ou est-ce que tu veux récompenser McCaffrey pour sa pouille-verse ? Il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Globalement, il faut donner à un Niners. Après, tu donnes à Purdy, tu donnes à McCaffrey. Moi, je donnerai à McCaffrey parce que j'adore ce joueur, mais tu donnes à l'un ou à l'autre, ça me va.
J'adore McCaffrey, mais je trouverais le côté dernier joueur sélectionné à la draft MVP, ça me ferait bien marrer. Voilà, c'est juste pour ce petit twist-là, mais je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de mauvais choix entre les deux.
Bah, c'est sûr que là, tu auras un 30 for 30 de ESPN sur...
Ah bah oui.
Mister, comment on...
Irrelevant,
qui devient MVP et tout.
C'est exceptionnel. Enfin, c'est vraiment trop marrant, cette histoire, quand même. Ouais. Bon, après, l'autre opposition est quand même pas désagréable non plus, puisque quand les Ravens ont le ballon, Lamar Jackson, de son côté, il a lancé 3105 yards, 17 touchdowns et 7 interceptions, mais il a couru 741 yards et il en a marqué 5 au sol des touchdowns. Là, il pourrait être à 5 saisons d'affilée à 750 yards, j'ai vu, il va forcément les faire, ce qui est assez exceptionnel, et il est quasi au niveau de Michael Vick aussi en nombre de matchs avec des 50 yards ou plus courus, donc... Lui, il n'a plus à prouver non plus, qui pourrait d'ailleurs être un bon candidat au MVP, même si lui, il l'a déjà eu. Le seul truc qui m'inquiète peut-être sur ce match-là, c'est que la défense au sol de San Francisco est la troisième en NFL. Est-ce que, Victor, on défend différemment quand c'est un quarterback-coureur comme les Lamar Jackson que quand c'est un super running back ?
Oui. On défend forcément différemment. Après, l'absence de Keaton Mitchell va faire un peu de mal. Donc, forcément, on va avoir très certainement Fred Warner en espion pour essayer de contenir Lamar Jackson. Il va falloir que Baltimore fasse ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire alterner entre... Enfin, prendre ce que la défense donne et aller marquer suffisamment de points pour gagner, à défaut parfois d'être spectaculaire. Mais c'est vrai que cette défense des Niners, elle est plus complète que jamais. Même la ligne arrière, qui semblait en difficulté plusieurs semaines d'affilée, bah, elle est revenue au top. Bah, vraiment, c'est inexplicable comment cette équipe a pu perdre 3 matchs d'affilée. Au milieu de deux séries de 5 victoires magnifiques. Bref.
Surtout face aux Vikings et aux Bengals, qui n'étaient vraiment pas les plus fortes équipes de la saison. Quoi.
C'est un peu improbable. Bref. Et Lamar Jackson, oui, je regardais un peu pour l'anecdote quand même. Il est déjà 4e meilleur coureur de l'histoire pour les quarterbacks.
Pour les quarterbacks, évidemment.
Et devant lui, il y a Russell Wilson. Faut dire, il y a la longueur de la carrière.
Hein. Oui. Ouais, et puis Russell Wilson.
Et puis, bon, deuxième et premier, je ne vais pas vous étonner, c'est Cam Newton et Mike Husby.
Évidemment. Sachant que Russell Wilson, si on avait compté tous les yards avant la ligne d'avantage, il serait probablement numéro 1 des quarterbacks aujourd'hui, vu comme il a dû courir pour sauver sa peau quand il était à Seattle. Donc ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, bah, tu as un peu répondu à la question que j'allais te poser pour terminer. Est-ce que pour Baltimore, il vaut mieux essayer de garder le ballon, jouer entre guillemets petit au sol et se dire on assure un nombre de points minimum et on essaye de les bloquer en face? Ou alors tu te dis de toute façon on va se faire exploser, donc autant essayer d'y aller à fond et essayer de marquer un max de points?
Ah non, moi je pense qu'il faut contrôler l'horloge, oui. Okay. Faut pas chercher la course à l'armement, parce que j'aime bien Beckham, Flowers, Likely, c'est pas Samuel qui te le Ayuk, tu vois. Faut trouver d'autres moyens de contrôler et contrôler l'horloge, c'est bien, parce que forcément plus t'as de ballon, moins tu vois l'attaque adverse. Donc non, je serais plutôt dans la gestion du bon père de famille, avec pour objectif de gagner ce match 20-17 sur un field goal à la dernière seconde.
C'est ta nouvelle expression, ça, les bons pères de famille. J'ai remarqué que tu la sors de plus en plus, mais c'est très bien. Ça me parle. J'espère que ça vous parle aussi. Mais voilà, on assure l'essentiel, on fait ça comme il faut, on se mouille pas trop et puis ça marche, quoi. Enfin, on se mouille pas trop dans la mesure du possible quand on joue. Les Niners, tu pronostiques qui?
Je vais quand même partir sur les Niners parce que là, non, mais dans le sens où tu vois, c'est un match 50-50. Mais encore une fois, je suis désolé, pas forcément toujours agréable pour les auditeurs, mais j'ai pas envie de perdre un point sur tout le monde en jouant le mec plus intelligent que les autres, quoi.
Moi, je vais peut-être être obligé de faire ça. On va passer de toute façon à tous les pronostics cet après-midi.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong.
Yes, sir.
And we're gonna work on three. One, two, three, work!
Mesdames et messieurs, l'heure est grave, puisque l'audace folle de Grégory Richard a fini par payer. Il repasse devant moi avec 13 points inscrits en semaine 15. Je ne félicite pas les Falcons qui m'ont bien mis dans le pétrin en perdant face aux Panthers. Alain, Lucas et Victor, eh bien, vous faites 12 sur cette semaine. Raphaël est à 11 et je score un faible 10. Soit au total, Victor qui garde la tête du championnat à 147 points, Lucas qui est juste derrière à 146. Alain qui est 3ème à 144, Raphaël lui cède un tout petit peu de terrain puisqu'il est à 141, Greg, donc on l'a dit, est à 134 et je ferme la marche à 133. On y croit bien sûr, rien n'est perdu. Alors, cette semaine 16, comment ça va se passer? Bon, eh ben, vous l'avez compris, on approche de Noël, donc il va y avoir plein de petits matchs en plus à droite à gauche, à commencer par samedi soir, mais surtout lundi. D'ailleurs, vous allez voir que pour la programmation de Touchdown Actu, il y a des choses qui vont être un peu changées ou chamboulées aussi. On en reparle à la fin du podcast. En attendant, tous les pronos de la semaine 16, c'est parti. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15, les Rams à 7 victoires et 7 défaites reçoivent les Saints à 7 victoires et 7 défaites aussi. C'est un match qui est ultra important pour la qualification play-off pour les deux équipes. L'attaque de Los Angeles face à la défense de Nouvelle-Orléans, moi, c'est un peu... un truc sympa qui me fait envie sur ce match, Victor.
Oui, bah là, c'est typiquement le genre de match qui sent un peu la poudre, hein, c'est sûr. Parce que bon, les deux équipes se jouent pour les playoffs, ils n'ont toujours pas digéré la fameuse passe-interférence en finale de conférence, tu sais. Donc c'est vraiment quand même...
Comment les blâmer.
Donc c'est un match un peu particulier, ça va sentir la poudre. Franchement, c'est une programmation sympa pour un jeudi.
Oui.
Et moi, je vais partir sur le meilleur quarterback et le meilleur coach. Du coup, les Rams.
Bah, évidemment, le meilleur coach. Il n'y a pas beaucoup de débats dans cette NFL.
Denis, Allen est-il un meilleur coach que Sean McVay? Réponse, non.
Denis Allen est-il un meilleur coach que 31 autres coachs dans cette NFL?
Denis Allen est-il un meilleur coach que Jeff Fisher?
Attention. Ah bah tiens, toi qui cherchais des idées de débat pour ta prochaine émission. Samedi à 22h30, donc il y a un match samedi à 22h30, il y en aura un deuxième juste après. Steelers à 7 victoires et 7 défaites, Bengals à 8 victoires et 6 défaites. Autant le premier il était sympa, autant celui-ci, il me fait moins rêver. Hein. Je vais pas te mentir que Mason Rudolph versus Jack Browning, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder pour pas trop déprimer dans ce match, Victor?
Les Bengals.
Ok, bon.
Parce que je vais te dire, honnêtement... Hein. Tu vois, samedi dernier, j'ai fait le match de 19h. J'ai fait le match de 22h. Et avant le match de 22h, je me suis dit, hey, c'est quoi, peut-être que je vais les tripler, les résumés, là. J'ai vu des Steelers jouer au football et j'ai fait, non. Non, en fait, je vais aller me coucher, quoi.
Ouais, il vaut mieux que tu t'en viens.
C'est triste. Cette équipe, elle est en décrépitude. Ils ont perdu plusieurs matchs d'affilée, dont les Cardinals, dont les Patriots. D'un autre côté, t'as des Bengals inoxydables qui gagne des victoires miracles, comme on a pu voir face à Minnesota. Bon, dans la dynamique, moi, demain, en tant que spectateur neutre, je préfère voir les Bengals en playoff que les Steelers, et je vais miser sur les Bengals qui me semblent mentalement au-dessus.
Tout pareil. Dans la nuit de samedi à dimanche, donc il y a encore un match samedi soir, entre guillemets, ça sera à 2h du matin, ce sont les Chargers à 5 victoires et 6 défaites qui reçoivent les Bills à 8 victoires et 6 défaites. Victor, j'ai un argument qui est imparable pour te convaincre de la victoire des Chargers, c'est qu'avec un nouveau coach, il y a forcément un effet renouveau et ils vont écraser cette équipe des Bills qui est peut-être un peu trop sûre d'elle aujourd'hui, non?
Tu veux dire que Easton Stick pourrait être retour de bâton?
Oh,
les Bills.
Bien sûr.
En soi, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais la réalité, c'est que ça reste une des franchises les plus démobilisées de la Ligue face aux Bills qui viennent de réaliser quand même... Alors déjà, la victoire face aux Chiefs, c'était sympa.
Oui.
Écraser les Cowboys comme ça, t'arrives en grande forme, quoi. Ils vont pas être bons à prendre et je pense qu'ils vont continuer à gagner.
Ils vont probablement continuer à gagner, mais je me tiens à cette règle jusqu'au bout. Ça me fera une bonne excuse si je perds de pronostiquer les Chargers. Tu vois, je commence déjà à trouver des excuses. C'est mauvais signe. On lance notre série des matchs de dimanche à 19h, à des horaires normaux de football. Donc, Falcons, 6 victoires, 8 défaites. Colts, 8 victoires, 6 défaites. Les Falcons qui ne méritent donc que notre mépris pour la défaite subie face aux Panthers. Et les Colts qui ont beaucoup trop à jouer sur ce match. Je pronostique évidemment Indianapolis.
Oui, moi aussi. Les Falcons, il va falloir être fort mentalement pour se remettre de ça. Perdre la course au playoff parce que tu perds un match face aux Panthers, c'est terrible. En plus, on voit quand même les critiques s'accumuler sur Arthur Smith, même le propriétaire, qui est quand même pas un grand bavard de médias. Il y allait de son petit commentaire en disant on fera le point, mais c'est pas au niveau attendu. Sous-entendu, dans 3 semaines, t'es viré.
Ouais, bon.
On va partir sur des codes qui semblent vraiment être la meilleure équipe.
aujourd'hui. Panthers, 2 victoires, 12 défaites. Packers, 6 victoires, 8 défaites. Les Packers doivent rebondir après 2 défaites parce que là, c'est sinon, c'est quasiment ciao pour les playoffs. Ça me paraît déjà compliqué aujourd'hui, mais là, il n'y a juste pas de débat. Les Packers doivent gagner ce match.
Ah, ils doivent gagner. Après, attention au match piège. Panthers qui reviennent en confiance et tout. Mais ils viennent de perdre contre les Giants et les Bucks. Donc, à voir. C'est vrai que normalement, ça doit être ce match revanche. On espère aussi qu'ils récupèrent du monde parce qu'il y avait quand même pas mal de blessés. Donc, je vais quand même partir sur les Packers, évidemment.
Texans, 8 victoires, 6 défaites. Browns, 9 victoires, 5 défaites. 5 défaites, pardon. Sans Stroud pour les Texans, semble-t-il. Keenum, c'est pas la même limonade quand même. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je vais quand même jouer les Texans en espérant gratter un point sur le reste de l'équipe sur ce match. Mais c'est pas tout à fait serein de ma part.
Ouais. Pour le coup, les Browns, ils ont quand même une des meilleures défenses de la ligue. Et comme tu le dis, trop d'incertitudes, trop de blessures du côté de Houston. Moi, je vais quand même partir sur les Browns, ne serait-ce que pour la belle histoire de Joe Flacco, que je n'aurais jamais cru devenir une idole des Cleveland Browns.
Non, ça c'est fou quand même. Vikings 7 victoires 7 défaites, Lions 10 victoires 4 défaites, c'est le match de 6 plays. Vous aurez Alain Mattei et Grégory Richard aux commandes. C'est une jolie affiche de NFC Nord sur le papier, bon malheureusement sans vrai quarterback pour les Vikings et du coup sans trop de suspense, en tout cas sans trop d'incertitude quant aux favoris de ce match qui semble plutôt être les Lions.
Bon, je suis pas d'accord avec toi, tu vois, parce que les Lions ont littéralement galéré dans tous les matchs de division cette année. Ils ont quand même failli perdre les deux contre Chicago. Ils se font exploser par Green Bay. Ils ont l'air traumatisés des matchs de division. Donc oui, ils sont favoris. Mais enfin, en terrain hostile dans le Minnesota, attention. Bon, c'est pas un grand déplacement. Ça, c'est l'avantage. Mais attention, parce que pour le coup, ça peut sentir un match piège. Évidemment, je mise les Lions qui ont fait un match référence face aux Broncos. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en division, cette année, ça galère un peu.
D'autant que les deux vont se retrouver en semaine 18. Ça peut avoir un impact pour le seeding des Lions. Ça peut surtout avoir un impact pour la qualification éventuelle des Vikings en playoff. Les Jets à 5 victoires et 9 défaites. Les Commanders à 4 victoires et 10 défaites. Deux équipes hors de la course des playoffs. Je te propose qu'on n'y perde pas trop de temps. Je pronostique les Jets.
Je sais pas. Je pronostique le match nul. Je vais pronostiquer les Jets aussi parce que leur défense reste meilleure que la défense des Commanders.
Ça me va. D'ailleurs, Aaron Rodgers qui finalement ne reviendra pas, mais qu'on garde quand même dans l'effectif. Vraiment, c'est sympa pour les gens qui essaient d'avoir des places dans ces effectifs NFL. Enfin, Titans 5 victoires, 9 défaites. Seahawks 7 victoires, 7 défaites. Seattle qui sort une grosse perf face aux Eagles en perte de vitesse. Qu'est-ce qu'on disait la semaine dernière, Victor ? La stat de 2008. Et oui, toujours pas de victoire pour Seattle, pour les Eagles face à Seattle.
Oui.
Seattle enchaîne face aux Titans, tu penses ?
Oui, je pense que les Titans, ça vraiment perdre face aux Texans de la manière dont ça s'est passé, fallait le faire. Les Seahawks, ils ont retrouvé un début de confiance. En plus, ils devraient retrouver Geno Smith quand même.
Ouais.
On peut considérer que les Seahawks sont repartis sur des bonnes bases.
Et c'est de bon augure s'ils veulent aller gratter une wild card. Dimanche à 22h05, les Bucks à 7 victoires et 7 défaites face aux Jaguars à 8 victoires et 6 défaites. Encore plein d'enjeux de playoffs pour ces deux équipes. On a parlé des deux divisions NFC Sud et AFC Sud. C'est marrant, elles se croisaient justement cette année. Donc la course est d'autant plus intéressante. À voir si les Jaguars ont Trevor Lawrence avec eux. C'est pas encore garanti. On n'a pas encore l'info quand on enregistre la mercredi soir, mais bon, force est de constater qu'ils perdent du terrain face aux autres équipes, et pour les Buccaneers, il y a encore une place pour aller chercher le titre de division. J'ai quand même l'impression que les Jaguars ont un meilleur effectif, et donc je vais aller avec eux, mais c'est pas évident à pronostiquer.
Moi, je vais sur les Buccaneers. Allez, je vais sur les Buccaneers, qui ont un jeu de course qui commence à se développer, une ligne qui va mieux, une défense qui semble vraiment bonne. Je pronostique la meilleure dynamique.
Ouais, c'est faire. Dimanche à 22h25, on a un magnifique Bears à 5 victoires et 9 défaites face aux Cardinals à 3 victoires et 11 défaites. Magnifique, c'était évidemment ironique. Il n'y a pas de playoff pour ces deux équipes-là, donc je te propose de donner ton pronostic.
Les Bears.
Les Bears également, et on enchaîne. D'autant que là, on a un beau match entre les Dolphins à 10 victoires et 4 défaites et les Cowboys à 10 victoires et 4 défaites également. J'imagine que le Game Pass à cette heure-là, si vous êtes sur le Red Zone, il n'y aura pas beaucoup d'images du Bears Cardinals. Alors, c'est dur de pronostiquer. Je me demande si le coup pris sur la tête par Dallas me déchauffe pas un peu et auquel cas, je serais plutôt tenté de pronostiquer Miami.
Moi, je vais plutôt partir sur Dallas en mode réaction d'orgueil.
Les deux sont complètement possibles.
En fait, c'est juste que si tu veux, l'effectif de Dallas me semble quand même plus complet. Et du coup, je les vois quand même comme une valeur plus sûre que les Dolphins, dont on ne sait pas s'ils vont récupérer Tyreek Hill et qui sont toujours un peu inconstants en défense.
Bon, même sans, la semaine dernière, ils mettent 30 points.
Oui, mais c'était pas les Cowboys.
Certes. Bah, c'est à Miami. Est-ce que les Cowboys ont l'habitude de jouer dans un stade ouvert où il fait super chaud? Pas sûr. J'essaie de trouver. Je fais des arguments à la Victor Roulier, moi. J'ai la voix cassée, je fais des arguments comme ça. Ça
super chaud en décembre, je sais pas, mais.
Oh bah, Miami, ça va, non?
Non. Il fait bon. Mais super chaud, bon.
Oui. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h15 du matin, c'est la veille de Noël, donc vous pourrez tenir jusqu'au matin et voir le Père Noël passer. Vous aurez un match entre les Broncos à 7 victoires et 7 défaites face aux Patriots à 3 victoires et 11 défaites. Denver qui a encore un truc à jouer, qui doivent y aller à fond. Je vois mal comment New England peut leur résister.
Oui, 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 les Broncos, ça, de toute façon, ils doivent absolument trouver le moyen d'aller en playoff. Donc, vous gagnez, sûr.
Il faut le gagner. Alors, il reste donc 3 matchs. Il y aura des matchs lundi à 19h. Joyeux Noël à l'avance. Le cadeau n'est pas hyper sympa puisque c'est un match entre les Chiefs à 9 victoires et 5 défaites et les Riders à 6 victoires et 8 défaites. On en a parlé, hein, les Riders, c'est pas forcément le match le plus représentatif de coller 63 points à des Chargers complètement démunis. Et les Chiefs doivent continuer de se rassurer un peu plus avant les playoffs. Face à New England, c'était peut-être encore un peu léger. Et donc, j'ai l'impression que là, ils sont ce qu'il faut pour coller une petite fessée aux Raiders et se remettre un peu en forme avant le sprint final.
Oui, c'était léger, mais ils ont fait le travail, ils ont accéléré quand il fallait. Donc, j'imagine un peu le même type de scénario dans ce match-là.
Lundi à 22h30, les Eagles de 10 victoires et 4 défaites reçoivent les Giants 5 victoires et 9 défaites. Si il y a une quatrième défaite pour Philadelphie face aux Giants, Victor, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Écoute, ça reste un match de division. Hein,
bah oui, mais bon, quand même.
C'est jamais évident, mais c'est vrai que c'est à Philadelphie.
Mais il faut plus perdre, là, surtout.
Non,
ça,
non, mais au bout d'un moment. Je suis bien d'accord. Là les Eagles restent favoris. Mais on a vu que là, ça commence à se tirer dans les pattes, par presse interposée, etc. Donc attention à ne pas perdre de fil de cette saison face à une équipe qui restera motivée, puisque c'est un match de division. Mais évidemment, je vais partir sur les Eagles quand même.
Moi aussi, mais sans être inquiet pour Philadelphie, 3 défaites d'affilée comme ça, en fin de saison, c'est jamais bon. Voilà.
Non, non, c'est pas idéal pour la dynamique, c'est sûr.
Non. Et enfin, dans la nuit de lundi à mardi, donc à 2h15 du matin, les 49ers, 11 victoires, 3 défaites face aux Ravens, 11 victoires, 3 défaites. C'était notre affiche de la semaine. On pronostique tous les deux les 49ers, je crois.
Effectivement.
C'est ça, très bien. Et bien voilà, pour tous nos pronostics de la semaine, j'espère que vous avez suivi. De toute façon, vous retrouverez tout ça sur Touchdown Actu avec les résumés à chaque fois. Et nous, on va passer tout de suite au code de la semaine après le jingle. Les cotes de la semaine 16 de NFL qui vous sont présentées par notre partenaire Unibet. On les remercie de nous soutenir. Si vous voulez faire vos paris en ligne sur la NFL, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont présents sur touchdownactu.com. Et on les remercie d'être à nos côtés une saison de plus. Victor, qu'est-ce qui te branche comme cote cette semaine? Il n'y a pas...
Moi, j'en ai deux qui me branchent.
Alors,
les cotes... Pour moi, son favori et pourtant sont à 1,80.
Oui,
et les Cowboys, ils sont à 1,83.
Face aux Dolphins. Donc là, c'est vrai que moi, je l'aurais un peu moins mis. Mais ça me va. De toute façon, il faut en mettre 3. Donc, bah, très bien. On prend les Cowboys.
Ils disent qu'ils ont la plus grosse cote des deux, alors que pour moi, ils sont favoris.
Oui, non, mais c'est vrai que ça s'entend. sur le match entre les Bucks et les Jaguars, c'est compliqué parce que les deux sont très proches. Et en fait, les deux, du coup, c'est 1,74 les Bucks, 1,79 les Jaguars. Mais je suis pas sûr d'avoir envie vraiment d'aller là-dessus. Et si je regarde un peu ce qui se fait par ailleurs, on ne pronostique pas sur le Rams Saints, mais on peut faire les autres. Et à ce compte-là, non, mais les Steelers, 1,91, c'est pas possible. C'est pas... Je regarde parce qu'il y a quand même près de la moitié des parieurs qui ont misé sur les Steelers sur ce match. Ça me paraît bien audacieux, on va dire ça comme ça. Allez, est-ce que les Ravens à 2,52, c'est pas une belle cote quand même?
Oui, oui, tu peux aller dessus, oui.
Franchement, c'est...
Enfin,
ouais, je pense que là, s'il faut en choisir un, en termes de possibilité versus cote, la cote à 2,52 des Ravens, elle me paraît très belle. Et donc, ça nous fait pour les Colts à 1,80 face aux Falcons, les Cowboys à 1,83 face aux Dolphins et les Ravens à 2,52 face aux Niners. Pour une mise de 5€, vous avez une cote de 8,30 et donc des gains potentiels de 41,50€. Ce qui n'est pas trop mal. Maintenant, si on veut faire un YOLO, ça va être un peu plus compliqué, parce que là, c'est du vrai YOLO, quoi.
Eh bien, moi, je te propose qu'on fasse un vrai YOLO de Noël. Et allez, du coup, les Chargers à 4,60 et Giants à 4,60.
Il n'y a pas plus YOLO que ça, mais c'est très bien. C'est parfait, c'est dans l'esprit. Qu'est-ce qu'on... Il faut en mettre un sixième, et puis comme ça, on est sûr de bien finir. Est-ce que les Patriots, ils peuvent pas un peu casser les pieds des Broncos? Tu vois,
ou les Cardinals à 2,44, mine de rien, il y a quand même un monde assez cohérent où Kyler Murray vient gagner contre les Bears. Hein.
Oui, c'est presque plus le YOLO d'ailleurs. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ok, allez, les Cardinals alors dans ce cas-là. Oh oui, ah, ouais, ça nous fait une super belle cote. Puisque si on met les Falcons, les Cowboys et les Ravens qu'on garde, on rajoute les Chargers à 4,60 parce que c'est la magie de Noël. On rajoute les Giants à 4,60 parce que c'est la magie de Noël. Et on rajoute les Cardinals à 2,44 parce que c'est quand même pas une si mauvaise équipe et que les Bears en face, ce n'est pas la panacée. Ça, c'est pour vous. Ça nous fait, pour une mise de 5€, un gain total potentiel de 2,303,23€. Ce qui est un très beau cadeau de Noël. On le rappelle quand même, évidemment, pronostiquer les Chargers, enfin parier sur les Chargers et les Giants dans ce contexte, c'est pas de l'argent perdu d'avance, mais pas loin. Donc si vous voulez vous amuser, allez-y, mais ne le faites pas si vous n'avez pas les moyens de le faire. Et de toute façon, gardez toujours le contrôle sur les paris que vous faites en ligne. Il y a plein de manières de vous faire aider si vous sentez que ça n'est plus un plaisir. Alors n'hésitez pas à le faire.
Bah, si vous pariez sur les Giants, ou si vous êtes supporter des Giants, n'hésitez pas à vous faire aider.
Je rêve, j'ai cru que Clint allait être sérieux. Non, non, pas du tout, il drôle jusqu'au bout.
Oh, ça va, c'est Noël.
Ça va, c'est...
J'ai quand même mis les Giants dans le YOLO.
Si c'est vrai, non, non, mais...
L'esprit de Noël.
Et puis, si on peut pas se chambrer... Si on peut pas se chambrer entre adversaires de division. En plus. Bon. Et puis, ben voilà, c'est comme ça qu'on va finir cette preview de la semaine 16, la semaine de Noël de NFL. C'est quand même beau d'avoir des matchs des jours de Noël, enfin, sauf pour ceux qui vont devoir travailler ce jour-là. On en parle, justement, on vous fait un tout petit point sur ce qui vous attend pour la suite de la semaine. Si vous écoutez ce podcast jeudi, en l'occurrence, le fauteuil va être ce soir, donc ce jeudi 21 décembre. J'ai oublié l'horaire par contre, donc ça c'est malin.
20h.
C'est 20h, merci, je savais que t'aurais l'info. Tu vas, et c'est toi qui le fais avec Alain du coup?
Exactement.
Eh ben, alors est-ce que tu peux nous teaser quel va être le sujet rapidement pour ceux qui écoutent jeudi?
C'est-à-dire que Alain a préparé, et je n'ai pas la liste, Alain a préparé des dilemmes en mode, est-ce que tu préfères un tel ou un tel? Et par exemple, j'en sais rien, est-ce que tu préfères TJ Watt ou Miles Garrett?
Tu préfères Jake Browning ou Mason Rudolph, par exemple.
Exactement. Est-ce que tu préfères, je ne sais pas moi, Tommy DeVito ou Ben DiNucci? Voilà. c'est des questions comme ça.
Bien sûr. Donc voilà, ça ce sera ce jeudi soir. Il y aura évidemment tous les résumés des matchs à la fin des matchs en question. On vous l'a dit sur 6 Play dimanche à 19h. Ça ne change pas. Ce sera l'affiche entre les Lions et les Vikings à 19h avec Alain et Grégory. Et puis les débriefs, ça ne change pas non plus. Ce sera mardi et mercredi prochain. Donc là-dessus, c'est pas trop modifié. Merci beaucoup Victor d'avoir été avec moi.
Mais merci à Raoul, merci à tous.
Merci d'avoir tenu, malgré ma voix de plus en plus éraillée, que ce podcast avance.
Oui, donc, chez moi, les gens ne voient pas, mais tu vois, c'est en train de mourir aussi d'autre côté. Donc, on est ensemble.
On est tous ensemble, bien sûr. Prenez soin de vous et de votre santé en cette fin d'année. On peut retrouver, évidemment, Touchdown Actu sur tous les réseaux sociaux, sur tdactu.com, sur toutes les plateformes de podcast. Il y a un podcast draft, du coup, demain, quand même, Victor.
Il y a un podcast draft qui va parler de defensive tackle.
Magnifique. Donc, vous pourrez retrouver tout ça sur tous les sites de podcast, comme d'habitude. Abonnez-vous, laissez des étoiles. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur Tipeee. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un très joyeux Noël quand même, parce que ben voilà, c'est dans le thème. Et puis, soyez bons autour de vous, sages et généreux. Recevez plein de cadeaux, je vous le souhaite. Pourquoi pas des super t-shirts Jean Actu. Et puis, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça avec plaisir. Prenez soin de vous et à très vite. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Meilleure recette dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocast Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on file.